Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats, de points de vue. C'est votre 18-20 dans une poignée de secondes, le journal. Nous serons en Allemagne sous le choc. Les intempéries ont fait plusieurs dizaines de morts. Dans 20 minutes, on revient largement sur ces inondations, des dégâts importants également en France, hein, des communes sous l'eau, où il est tombé par endroits l'équivalent de 2 mois de précipitations dans l'est de la France. L'hydrologue Emma Aziza sera mon invitée. 18h30, le débat des grandes voix, premier comité interministériel sur la laïcité et manifestation hier, hein, contre le pass sanitaire. Vous réagissez bien sûr au 39-21. Je vous attends. Et puis à 19h15, votre club des idées. On va regarder ce soir ce qu'on a dans nos assiettes. Que se cache-t-il derrière le Made in France? Mange-t-on réellement des produits 100% français? 39-21, on en parle ensemble ce soir. Mais avant cela, toute l'info avec le journal présenté par Roman Hockey. Bonsoir Roman.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
Des intempéries meurtrières dans l'ouest de l'Allemagne, englouties par des pluies diluviennes. Au moins 42 personnes sont mortes. Nous serons sur place dès le début de ce journal.
Des inondations qui frappent aussi la Belgique. Les autorités de Liège invitent les habitants à évacuer la ville, menacée par une crue exceptionnelle.
Le gouvernement maintient la pression. La semaine dernière, 96% des nouveaux malades du Covid n'étaient pas vaccinés. Précision d'Olivier Véran en déplacement dans un centre de vaccination à Chambéry.
Flambée de contamination dans les Pyrénées-Orientales, département le plus touché par le variant Delta. Nous ferons le point avec notre correspondant sur place, Benjamin Péter.
Emmanuel Macron reprend son Tour de France. Le chef de l'État rendait visite au peloton pour la 18e étape avec un air de pré-campagne électorale.
La grande boucle où tout est joué, ou presque. Le roi Pogacar n'a fait qu'une bouchée du célèbre col du Tourmalet, nous dira Axel May.
Et ce soir, la Bourse de Paris termine en baisse à 6493 points.
La tendance météo, bonsoir Marlène Duré.
Bonsoir Thierry. Les pluies persistent dans le Jura et le Doubs. Les deux départements franc-comtois restent en vigilance orange pluie inondation jusqu'à ce soir 22h. Et puis on a aussi la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle. Et les deux départements alsaciens maintenus en alerte orange pour les crues est quand même une bonne nouvelle pour les régions de la moitié ouest. Il fera beau demain.
À tout à l'heure, Marlène.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Ce sont les inondations les plus meurtrières en Europe depuis ces 20 dernières années, avec un bilan accablant en Allemagne, dévastée par la violence de ces intempéries. Au moins 42 personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues.
Tout à fait. Bonsoir, Johanna Chabas.
Bonsoir.
Le point sur la situation en Allemagne ce soir.
Ben vous le disiez, c'est 42 personnes qui sont mortes. C'est déjà l'un des pires bilans de l'histoire du pays. Et il pourrait encore s'aggraver dans la commune de Schulde, au sud de Beaune. 6 maisons se sont effondrées, emportant les habitants. 50 à 60 personnes sont considérées comme disparues. Signe de la détresse des autorités du pays, la police demande aux habitants d'envoyer des vidéos et des photos pour avoir des indices et essayer de retrouver les disparus. L'ouest de l'Allemagne est particulièrement touché. Les pluies diluviennes de ces dernières heures ont fait déborder les rivières et détruit tout sur leur passage. L'Allemagne est en pleine campagne électorale, donc beaucoup de candidats ont pu dire que ça doit être la faute du réchauffement climatique. Angela Merkel a réagi, la chancelière, et disant que c'est une véritable tragédie.
Merci Johanna Chabas pour ces précisions.
Et puis des pluies diluviennes qui submergent aussi le Luxembourg, la Belgique également, où les corps de 6 personnes ont été retrouvés.
Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, et ces intempéries touchent particulièrement le sud du pays.
Oui, c'est la zone frontalière avec l'Allemagne qui est particulièrement touchée. Dans la région de Liège, plusieurs communes sont totalement inondées. C'est le cas de Pépinster, 10 000 habitants à 30 km au sud de Liège. Les eaux y sont montées d'environ 3 mètres et sous la force des courants, plus d'une dizaine de maisons se sont effondrées. Les secours s'organisent, explique Philippe Godin, le maire de la commune que j'ai pu joindre par téléphone.
C'est un paysage de désolation totale. La commune est totalement dévastée. Tous les commerces ont été inondés, tous les bâtiments des particuliers ont également été dans le centre. C'est absolument dantesque. Nous avons toute une série de personnes qui sont encore aux étages parce qu'on a un très gros volume d'eau qui passe au sein de la commune. On ne parvient pas à évidemment récupérer toutes ces personnes. On va attendre la décrue pour pouvoir les sortir de leur bâtiment.
Une centaine de pompiers sont sur place. Des secours sont venus de la région flamande, au nord du pays, mais aussi de France. Dans tout le sud de la Belgique, le trafic ferroviaire est interrompu. Et dans la grande ville de Liège, la mairie a demandé aux habitants d'évacuer le centre-ville et les quais au bord de la Meuse par précaution. précautions, le niveau du fleuve devrait monter dans les prochaines heures alors que la pluie continue à tomber.
Merci Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Et la France non plus n'échappe pas à ces intempéries. 9 départements de l'Est sont toujours en vigilance orange, nous dira Marlène Duret à la fin de ce journal.
Et on en reparle bien sûr largement à 18h20 avec mon invité, l'hydrologue Emma Aziza. 18h04 sur Europe 1, la suite du journal de Romain Hoquet avec la vaccination et ce chiffre stupéfiant. Près de 3 millions de rendez-vous ont été pris depuis les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine.
42,5% de la population a pour l'instant reçu ces deux doses, autant dire qu'on est loin de l'immunité collective. Olivier Véran s'est rendu justement cet après-midi dans un centre de vaccination de Chambéry, en Savoie, avec une priorité, Jean-Luc Bougeon, celle de convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés.
Oui, le ministre de la Santé a vraiment voulu adresser un message volontariste en faveur de la vaccination. Alors certes, les centres sont quasiment pleins avec 3 millions de rendez-vous pris depuis lundi, vous le disiez. Mais partout, on ouvre des lignes de vaccination supplémentaires. Et donc tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés peuvent venir. On peut même parfois arriver sans rendez-vous. Et dans la grande majorité des cas, eh bien, on est reçu pour une injection. Olivier Véran qui s'est entretenu tout à l'heure avec de jeunes chambériens comme Théo, 19 ans, qui vient seulement de se décider à se faire vacciner pour essayer là de comprendre sa réticence à le faire jusque-là. Écoutez.
Et avant, qu'est-ce qui fait que vous ne vous étiez pas vacciné ?
Moi, j'avais pas trop envie. Bah, j'avais un peu peur. Quoi,
et qu'est-ce qui vous fait peur ?
Bah, le vaccin, surtout, et puis la Covid, surtout.
Ah bah, si vous avez peur de la Covid, oui. C'est le vaccin est justement là pour que vous n'ayez plus peur du Covid. Après, vous êtes débarrassé de la peur du Covid, oui, donc ne vous inquiétez pas. Bon, vous avez fait le bon choix, en tout cas.
Voilà, message positif d'encouragement du ministre de la Santé qui s'est également appuyé sur de récentes études, notamment de la direction de la statistique, pour montrer l'efficacité des vaccins.
Dans notre pays, sur la base des contaminations de la semaine dernière, 96% des Français qui ont contracté le Covid avec des symptômes n'étaient pas vaccinés. Donc, vaccinez-vous, protégez-vous, la vaccination se passe très bien. La première analyse statistique montre que lorsque vous êtes vacciné, vous avez donc au moins 4 fois moins de risques d'attraper le Covid.
Voilà Olivier Véran qui a ajouté que la décision de rendre le schéma vaccinal complet une semaine et non plus 15 jours après la deuxième dose était imminente, visiblement dans les jours à venir.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans certaines régions, le taux d'incidence explose. C'est le cas notamment en Occitanie où plusieurs départements dépassent le seuil d'alerte.
L'Ariège, l'Hérault, la Haute-Garonne. Benjamin Pétard, vous êtes à Perpignan. Et dans les Pyrénées-Orientales aussi, le taux d'incidence a explosé en quelques jours.
Oui, un taux d'incidence qui s'établissait autour de 12 pour 100 000 au début du mois et qui désormais a grimpé à plus de 155. Alors je me suis rendu au centre de vaccination de Perpignan, au parc des expositions. J'ai croisé Nathalie, elle est ambulancière. Elle est venue un peu à reculons, mais avait pris un rendez-vous avant les annonces du président de la République.
Parce que je me doutais qu'on nous obligerait à le faire, de toute façon. Dans un sens, c'est bien, mais dans un autre sens, j'aurais aimé attendre un peu plus longtemps pour les effets. Ça augmente, mais les hospitalisations, non. Enfin, moi, je le vois sur l'hôpital, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. On verra bien.
Mais plus que le taux d'incidence actuel, c'est surtout la tendance qui préoccupe les autorités, qui redoutent que la barre des 200 seuils fixés par Emmanuel Macron pour prendre de nouvelles mesures ne soit franchie en début de semaine prochaine. Une situation qui inquiète Mathias.
En ayant deux commerces sur Perpignan, forcément ça m'inquiète de voir que les taux remontent et de savoir qu'est-ce que vont être les répercussions derrière. S'il y a un confinement, s'il y a un couvre-feu de nouveau, j'ai un commerce en centre commercial, donc est-ce que les centres commerciaux vont être de nouveau pénalisés ? Il ne faut pas que ça recommence, voilà.
D'autant que de l'autre côté de la frontière, le taux d'incidence explose à près de 1000. Alors des centres de vaccination éphémères ont été ouverts, hier à la gare, ici, samedi à Céré, et aujourd'hui une opération de dépistage était organisée sur la plage de Bagnoul-sur-Mer pour tenter de ralentir les contaminations.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie. À deux pas de l'Espagne, la destination numéro un des Français qui choisissent l'étranger pour leurs vacances.
Et si c'est votre cas et que vous n'êtes pas vacciné, attention, un test PCR de moins de 24 heures vous sera demandé à votre retour en France. Une nouvelle mesure qui s'applique aussi pour le Portugal.
18h08 avec le budget 2022 dévoilé et la priorité accordée au ministère régalien à 9 mois l'élection présidentielle.
Une belle enveloppe de presque 11 milliards d'euros pour l'an prochain. Maud Descamps, le gouvernement veut mettre l'accent sur la police, la justice ou encore l'armée.
Oui, c'est clairement la priorité de 2022 puisque ce sont ces ministères qui concentrent les augmentations de dépenses. Nous avons privilégié les dépenses qui se trouvent au cœur des missions de l'État, a d'ailleurs souligné Bruno Le Maire cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le budget de la défense et celui de l'éducation seront tous les deux en hausse de 1,7 milliard d'euros l'an prochain pour financer notamment les revalorisations des salaires des enseignants. Le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur augmentera, lui, de 900 millions d'euros et celui consacré aux missions de sécurité progressera de 800 millions d'euros. La justice, quant à elle, verra son budget grimper de 700 millions d'euros. En revanche, la plupart des autres ministères verront leur budget se stabiliser l'an prochain. Et enfin, la moitié du budget 2022 sera consacrée à des dépenses de soutien liées à la crise, comme par exemple le prêt garanti par l'État ou encore l'hébergement d'urgence. Et puis, 2 milliards d'euros seront fléchés vers la prime à la rénovation des logements et le financement des mesures annoncées lundi soir par Emmanuel Macron, comme le revenu d'engagement pour les jeunes ou encore le nouveau plan d'investissement.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
L'Union européenne passe à l'offensive contre la Pologne et la Hongrie.
La Commission dénonce le caractère discriminatoire de plusieurs lois anti-LGBT. Elle lance donc une procédure d'infraction, la première étape avant d'éventuelles sanctions financières.
Le président français Emmanuel Macron reprend son Tour de France.
Le chef de l'État est dans les Pyrénées aujourd'hui et demain. Cet après-midi, il a suivi la 18e étape de la Grande Boucle. 129 km en montagne entre Pau et Luz-Ardiden, où les coureurs sont arrivés il y a une petite demi-heure.
Emmanuel Macron qui en a profité pour remettre le trophée au vainqueur, Pogacar. Hélène Terzian, vous suivez ce déplacement pour Europe 1 avec comme un air de pré-campagne électorale.
Oui, Emmanuel Macron continue de prendre le pouls du pays et cette fois sur une terre qu'il connaît bien. On est tout près de Bagnères-de-Bigorre, c'est là que le président passait ses étés lorsqu'il était enfant. C'est donc de manière assez décontractée qu'il est arrivé à Sainte-Marie-de-Campan, village mythique de l'étape. Sans cravate, il s'est attablé avec quelques producteurs locaux et tendait l'oreille. Il s'est même laissé aller à entonner quelques notes en patois. Objectif, partager ce moment de liesse populaire, montrer aussi que le tourisme et l'économie reprennent. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé la création d'un musée du Tour de France, ici à Sainte-Marie-de-Campan, qui s'inscrit dans un projet de développement du vélo made in France dans le département.
Et ça permettra de continuer à faire vivre la mythologie et les figures mythiques du Tour de France dans votre magnifique commune. Vive le Tour de France et on sera à vos côtés avec Business France.
Le président avance, comme les grimpeurs, il pédale, mais toujours rattrapé par la crise sanitaire. À l'arrivée de l'étape, il doit d'ailleurs visiter le vaccinobus qui suit toute la boucle du Tour. Le message aux Français est clair, avancez, mais vaccinez.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1. On reste sur la route du Tour de France, mais cette fois côté vélo.
Europe 1 en direct du Tour de France.
Et une 18e étape donc avec deux vedettes, le célébrissime col du Tourmalet et le Slovène Pogacar qui conserve son maillot jaune et assomme la concurrence.
Axel May, il reste encore trois étapes avant l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Axel, est-ce qu'on peut dire que tout est joué ?
Oui, oui. D'ailleurs, même classement qu'hier hein, à l'arrivée de l'étape au col du Porté. Tadej Pogacar premier, Jonas Vingegaard, le jeune Danois, deuxième, Richard Carapaz troisième. C'est aussi le classement général de ce Tour de France. Et à Luz-Ardiden, comme hier au col du Porté, Pogacar a fait du Pogacar, visage avec un sourire figé, une mèche de cheveux rebelle qui dépasse du casque et cette façon de pédaler assis sur sa selle hein, malgré les forts pourcentages qui n'est pas sans rappeler l'ancien champion espagnol Miguel Indurain. Troisième victoire d'étape sur ce tour pour Pogacar qui pourrait même remporter une quatrième étape après-demain lors du contre-la-montre dans les vignobles bordelais. 5 minutes 40 d'avance, 45 d'avance hein, sur Vingegaard, son dauphin, le jeune Slovène, et donc en passe de remporter son deuxième Tour de France.
Et puis Axel, cette victoire survient alors qu'il y a de nouvelles suspicions sur le Tour de France et ça concerne même la première équipe au classement général.
Oui, Bahrain Victorious, c'est le nom de cette équipe qu'on a vu à l'offensive aujourd'hui avec, tiens, un autre Slovène dans l'échappée du jour, Matej Mohoric. Et au départ de l'étape, il s'est justifié au micro de Marguerite Lefebvre. Écoutez Matej Mohoric.
Voilà.
Je ne me sens pas gêné, je n'ai rien à cacher, dit-il. Alors que s'est-il passé ? Un début juillet, une enquête préliminaire a été ouverte pour des soupçons de dopage. Les gendarmes spécialisés ont fait une descente dans l'hôtel de la formation financée par le royaume de Bahreïn hier. Apparemment, ils ont vérifié notamment des dossiers d'entraînement des coureurs et puis sont repartis. L'équipe Groupama FDJ était dans le même hôtel. Écoutez la réaction de l'un des directeurs sportifs, Yvon Madiot.
On en a marre, bien sûr qu'on en a marre. Il faut être vigilant.
c'est bien qu'il y ait des contrôles, c'est bien qu'il y ait de la surveillance, mais c'est bien que tout le monde veille à ce que ça triche pas trop.
Voilà, et quels que soient les résultats de l'enquête, hein, cette descente de gendarmerie rappelle encore à quel point les soupçons de triche collent encore malheureusement à la peau du Tour de France.
Merci Axel May, on vous retrouve demain pour la 19e étape du plat, cette fois avec 207 km entre Mourinx et Libourne.
C'était le Point Étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Énergie.
D'ailleurs, on parlait de Pogacar, hein, le plus jeune vainqueur du Tour de France. Il l'a remporté l'an dernier à 22 ans.
Et lui aussi s'illustre dans sa catégorie très différente. Olivier Dimen a 18 ans et c'est le plus jeune astronaute de l'histoire.
Et on apprend ce soir qu'il s'envolera le 20 juillet aux côtés du milliardaire Jeff Bezos pour le vol inaugural de son vaisseau Blue Origin.
Et pour terminer, le grand retour de Stromae. Après 8 ans d'absence, il revient. C'est une information de nos confrères de Paris Match. Le chanteur sort un nouvel album cet été avant une tournée prévue en 2022. Ça promet Thierry, hein ?
Bah ouais, une petite dépression. Il a travaillé avec son époux, je crois, dans la mode. Et
exactement.
Puis le revoilà sur scène. Et ça c'est chouette. Merci beaucoup Romain Oquet. Vous revenez bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo, c'est important ce soir, Marlène Duré. Est-ce qu'on commence à voir un peu le bout du tunnel dans le nord-est ?
La calmie est amorcée en tout cas. Hein. Les intensités de pluie dans le Doubs et le Jura sont moins fortes que ce matin. Il va continuer à pleuvoir par intermittence dans la nuit, mais les cumuls supplémentaires attendus justifient en fait le maintien des départements en vigilance orange jusqu'à 22h ce soir. Et puis on a tous ces autres départements, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les deux départements de l'Alsace qui sont maintenus en alerte orange pour les crues. Et on vient de rajouter l'Aisne, ce qui nous fait au total 10 départements.
10 départements.
Voilà, en orange. Demain, le contexte reste le même. De l'air frais en altitude, souvenez-vous, de l'air chaud en basse couche, au sol, ça vient se confronter. Résultat, la masse d'air se déstabilise et même si l'axe des pluies se décale vers la frontière allemande, on va retrouver des averses, oui, de l'instabilité sur toute la frange est du pays. En matinée, ce sont des pluies régulières en Lorraine, Alsace, jusqu'au Jura et aux Alpes du Nord. L'après-midi, plutôt sous forme d'averses. Averses orageuses des Alpes du Sud à l'île de Beauté. Et l'idée, c'est que plus on va vers l'ouest, plus le ciel sera dégagé. On a une vraie belle amélioration l'après-midi, en tout cas des Hauts-de-France à la Bretagne, en passant par la région parisienne. Ça va vous faire plaisir, Thierry, sur toute la façade atlantique, dans les régions du sud-ouest. Et puis le vent va permettre aussi de chasser les nuages du Roussillon à la Provence et en basse vallée du Rhône. Allez, les températures. Elles montent dans le sud-ouest et le nord-est aussi demain. Nous aurons 19 degrés au Havre, ainsi qu'à Chamonix, 20 degrés à Saint-Brieuc et Clermont-Ferrand, 21 à Lille, 22 à Troyes, à Thonon-les-Bains et Auxerre, 25 à Paris, Angers et Valence, 26 à Nantes, 27 à Toulouse et Bastia, et ça monte jusqu'à 31 à Montpellier.
Merci Marlène. Prochain point météo, 18h30.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, justement, on continue à parler de ces inondations intempéries meurtrières en Allemagne, en France. Plusieurs communes de l'Est sont sous l'eau. Quel impact cela va avoir sur nos cultures, sur notre consommation ? L'hydrologue et spécialiste de la résilience des territoires, Emma Aziza, est mon invité dans deux minutes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et notre invitée à 18h20, elle est hydrologue spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. Elle va nous aider à comprendre ce qui se passe dans l'Est et ailleurs en Europe. Bonsoir Emma Aziza.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. On va parler de la France, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, l'Allemagne, le bilan est très lourd ce soir. Outre-Rhin, où de violents orages ont frappé l'ouest du pays. Hein. Les autorités ont déjà annoncé 42 morts, des dizaines de disparus, des pluies torrentielles qui sont abattues. C'est assez inhabituel pour la saison. Pourquoi cet épisode est-il si violent ?
Alors, il fait vraiment penser cet épisode à ce que l'on a vécu dans le sud de la France. Quand je regarde les images, moi je regarde des images que j'ai déjà connues sur Nîmes en 1988. Il faut vraiment regarder de près ce qui se passe et on a vraiment des phénomènes extrêmement violents que l'on retrouve d'habitude que sur le pourtour méditerranéen. Je vous donne un exemple. Il y a une petite rivière qui s'appelle l'Aar, oui, en Allemagne, qui est passée de 75 cm à 5,5 mètres de hauteur en quelques mètres. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une signature de crue que l'on connaît dans le sud de la France. Et ça se déroule en Allemagne en plein mois de juillet. Donc voilà en quoi c'est exceptionnel, parce qu'on est plutôt habitué aux crues hivernales sur cette partie de l'Europe.
On l'a dit dans le journal de 18h, la Belgique est également touchée. Le bilan provisoire est de 7 morts. Liège est évacué, la ville de Liège évacue ses habitants. Ces violentes intempéries sont parmi les plus meurtrières en Europe au cours des 20 dernières années. Est-ce que c'est imputable au dérèglement climatique ?
Alors oui et non, on a toujours connu des inondations majeures dans toute l'Europe, bien plus graves même que celles que l'on est en train de vivre actuellement. Mais là, ce que l'on remarque, c'est quelque chose de tout à fait inhabituel. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en juin 2016, rappelez-vous, sur le bassin du Loing. On avait une sorte de crue éclair sur le bassin de la Seine en plein mois de juin, quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué. Là, c'est à peu près similaire. Ouais. On a des pluies exceptionnelles mai-juin et début juillet, les sols sont totalement saturés.
C'est ça.
Et la nouvelle perturbation qui arrive fait exploser le système. Et là, ça devient meurtrier, dangereux, et il y a tout qui est emporté sur son passage. Donc si le territoire a été urbanisé au préalable, ben, toutes ces vulnérabilités qui ont été mises en place les unes après les autres, ben, finalement vont finalement exploser dans un système où on va avoir des victimes, on a des maisons emportées, on le voit très bien sur les images qui passent actuellement. Ouais. On a vraiment ces l'immageurs que l'on connaît, on sait très bien cartographier, qui sont complètement remplis d'eau, sauf qu'en fait, dessus, vous avez des maisons qui ont été urbanisées depuis ces dizaines de dernières années. Vous voyez.
Ce que vous dites finalement, c'est que c'est dû à l'urbanisation, c'est dû au béton finalement ?
C'est dû en fait à une somme d'éléments. Mmh. C'est dû à l'urbanisation dans les zones urbanisées, ouais. Au fait que l'on ne sache pas calibrer ces pluies diluviennes dès lors que l'on place du béton. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui en France, il n'y a quasiment aucun endroit dans lequel on construit une maison en intégrant le risque inondation. Ouais. Les architectes n'intègrent pas cette question du risque aujourd'hui. C'est une réflexion qui est très récente. On sait quelles sont les zones inondables, on sait où ce n'est pas inondable, mais avec le changement climatique, on n'est plus sur les mêmes hauteurs d'eau. On a le double de précipitations qui arrivent. On a ces gouttes froides et cet air extrêmement chaud autour. Le mois de juin 2021, c'est le troisième mois le plus chaud sur le globe en 142 ans de données. Donc il faut comprendre qu'en fait, avec cette masse d'air chaud, il y a beaucoup plus de précipitations, c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus dangereux. Donc il va falloir qu'on réfléchisse en profondeur.
Il faut rappeler ce chiffre, Emma Aziza. 1 million de Français habitent aujourd'hui en zone inondable. Donc il faut prendre en compte cela. Et vous le dites finalement, ce n'est pas pris en compte par les architectes.
C'est absolument pas pris en compte ni par l'urbaniste ni par les architectes. C'est pris en compte dans les zones qui sont considérées comme ce que l'on appelle les plans de prévention des risques inondations, où là l'urbanisme est assez bien contrôlé. Mais on voit très bien que avec les événements qu'on a vécu au mois de juin et les effets de ruissellement comme sur la ville de Reims qui a été complètement dévastée, ouais. On voit très bien que les risques de ruissellement ne sont pas pris en compte, ne sont pas cartographiés. Les bouches d'égout, si vous voulez, ne sont absolument pas adaptées à ces niveaux de pluie et cette ampleur. Donc il y a vraiment une réflexion profonde qu'il faut mener extrêmement rapidement, parce que je vous rappelle, les trois dernières années, 2020, 2019 et 2021, sont sur le podium des trois années les plus chaudes jamais recensées dans le monde. Et donc, vous avez vraiment cet air clos, froid que l'on a vu là, sur la Belgique et le haut de la France, mais qui est entouré de masses d'air extrêmement chaudes sur la Scandinavie, sur le cercle arctique, sur la Russie, ou bien encore en bas, vous voyez, sur le Maroc. Donc, en fait, on est entouré d'un air extrêmement chaud qui dépasse des records historique, et ça c'est vraiment le changement climatique. Et au milieu, nous, ben, on prend des pluies exceptionnelles avec les désastres que l'on est en train de voir.
Alors des communes inondées en Meurthe-et-Moselle, des routes coupées dans le Doubs. Je recevais Sébastien Proutot, président FNSEA d'Indre-et-Loire, agriculteur à Maillé ce midi. Écoutez ce qu'il disait. Je vous propose d'écouter dans un instant Emma Aziza, le président FNSEA d'Indre-et-Loire. Écoutez.
Quand même beaucoup de questions à se poser. Il faut qu'on ait des moyens de plus de préservation, de moyens aussi de gestion de ces eaux-là. Oui, on en appelle au ministère, au bon sens, entre guillemets, que ce soit sur les systèmes d'alerte, mais aussi sur la gestion de l'eau.
Voilà, c'est une vraie question. Comment se fait-il que les alertes soient données si tard, Emma Aziza ?
Alors déjà, dès lors qu'il y a une goutte froide, on ne sait pas prévoir. On ne sait pas où la pluie va tomber. D'accord. On le voit en temps réel sur les images satellites et sur les images radars, mais il faut avoir conscience de ça. Alors il y a effectivement des innovations. Météo France, maintenant un super calculateur. Sans doute qu'on va aller vers quelque chose de mieux. Mais en tous les cas, on ne peut que suivre en direct. Et puis, quand cette pluie tombe sur le sol, sa réaction va être fonction de ce qu'il y a sur le sol. Donc si vous avez des erreurs d'aménagement, si vous avez des terrains agricoles qui ont été modifiés au niveau de la couverture du sol. Vous avez un ameublissement du sol qui a été compacté ou qui a été, suivant les pratiques agricoles, ça va exacerber la réaction et le type de dommage. Donc en fait, la vulnérabilité s'exprime dès lors que vous avez cet aléa, ce danger comme ça qui arrive, cette pluie, et qui va s'abattre sur le territoire, qui va se transformer ou non en catastrophe, suivant l'aménagement et suivant la somme d'erreurs qui ont été faites sur ces dizaines de dernières années.
Emma Aziza, merci à vous pour vos explications. Hydrologue ce soir, invitée d'Europe Soir. Grand merci à vous, madame.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, l'essentiel de l'info, puis les grandes voix. On va parler notamment du nouveau comité interministériel de la laïcité 39-21. Vous prenez la parole avec plaisir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Avec l'essentiel de l'information, Romain Oquet.
Des inondations meurtrières en Allemagne où le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 42 personnes sont mortes et des dizaines sont portées disparues. En Belgique, les autorités appellent les habitants à évacuer la ville de Liège. 9 départements de l'Est de la France sont toujours en vigilance orange. Un test de moins de 24 heures au retour de l'Espagne et du Portugal. Cela concerne les personnes non vaccinées qui échappent en revanche à un isolement obligatoire. L'avertissement de l'Union européenne contre la Pologne et la Hongrie. La Commission européenne lance aujourd'hui des procédures d'infraction contre ces deux pays et leurs lois discriminatoires contre les personnes LGBT. Et puis la 18e étape du Tour de France, où les coureurs se sont attaqués à un géant de la grande boucle, le col du Tourmalet. Sans surprise, Pogacar s'est imposé. Le Slovène conserve son maillot jaune à 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Merci Romain Noquet, prochaine édition complète à 19h. La météo, Marlène Duret, le soleil revient plus franchement par l'ouest.
Oui, ça c'est une belle amélioration. Ça va concerner une petite moitié ouest, y compris la région parisienne et les Hauts-de-France. Et puis le soleil au rendez-vous toujours du Roussillon au Vaucluse, sur une grande partie aussi des Alpes-Maritimes. Attention aux averses orageuses quand même pour les Alpes du Sud jusqu'à la Corse demain. Et puis le temps qui restera bien gris et humide du nord-est au centre-est avec des pluies de moins en moins régulières au fil de la journée et quelques trouées qui pourront comme ça nous redonner un petit peu le sourire. 10 départements, je le rappelle, sont toujours en alerte orange pour des pluies et des crues. Et
merci.
Les températures, j'avais oublié.
Les températures, allez-y,
entre
bien
19
sûr,
au Havre et 31 à Montpellier, fera 25 à Paris.
Merci Marlène. Prochain point, 19h bien sûr.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre le débat des grandes voix avec ce jeudi soir. À mes côtés en studio, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, bonsoir.
Bonsoir Thierry.
Et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest France à Paris, bonsoir.
Bonsoir.
Et bien sûr avec vous, si vous souhaitez prendre la parole, 39-21, vous êtes les bienvenus. On va parler de laïcité pour débuter. Jean Castex a donné le coup d'envoi aujourd'hui d'un premier comité interministériel de la laïcité, alors que le projet de loi confortant les principes républicains doit être adopté la semaine prochaine. Ce comité interministériel remplace l'Observatoire de la laïcité, dissous il y a quelques semaines. Ça veut dire quoi? Il était, Stéphane Vernet, trop décrié?
Il posait problème à un certain nombre de gens, effectivement. Peut-être qu'il était considéré comme trop politisé ou pas assez, n'allant pas assez dans le mouvement que souhaite impulser l'exécutif. C'est pour ça qu'il a été dissous, oui.
Jean-Louis Bianco, qui était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce matin à 7h40, tenait cet observatoire. Il était accusé d'être trop souple, d'avoir une vision de la laïcité ouverte, inclusive. Louis Alter.
Oui, c'est vrai, il y avait Jean-Louis Bianco qui était le président de cet observatoire.
Oui.
Il y avait son secrétaire général, Nicolas Cadenne, qui formait un duo qui, en effet, agaçait pour le moins les tenants d'une laïcité qui n'a pas d'adjectif en fait, qui soit pas ouverte, qui soit pas inclusive, qui soit pas tout ce qu'on veut bien lui ajouter.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a quelques faits d'actes que nous on a beaucoup documenté à Marianne, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mmh. Mais quand en 2015, après les attentats, L'Observateur de laïcité signe une tribune aux côtés de signataires du CCIF, le comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissous depuis. Quand Nicolas Cadenne reprend sur les réseaux sociaux Elisabeth Badinter et sa vision de la laïcité, quand il s'insurge aussi des arrêtés anti-Burkini en expliquant que c'est une vision stigmatisante des musulmans. Mmh. Évidemment, tout ça, on peut en débattre, mais est-ce que c'est le rôle d'un observatoire qui était placé, je le rappelle, sous l'autorité du Premier ministre, d'avoir de telles interprétations, pour le moins discutables, de la laïcité et surtout de telles complaisances, osons mais le mot, vis-à-vis de certains tenants de l'islam politique.
Stéphane Vernet, il avait l'avantage quand même d'être indépendant, même si sous la tutelle de Matignon, tandis que là, ça sera directement rattaché à Matignon, ça veut dire finalement que c'est Matignon qui va prendre la main et...
Ah ben complètement, puisque c'est plus un observatoire, c'est un comité interministériel. Donc en fait, c'est un
donc clairement, l'exécutif reprend la main sur le dossier.
Bah, oui, totalement, bon. Oui, complètement.
Ouais. Alors, au sein de toutes les administrations seront déployées à partir de 2022 des référents laïcité, des sous-préfets seront désignés dans chaque département pour animer les politiques locales autour de la laïcité. Ça veut dire quoi que maintenant, Louis Osalter, on passe aux actes, c'est fini les belles phrases, les beaux mots ?
Alors, ça, je ne sais pas. Justement, c'est ce qu'on va voir. Parce que le projet du gouvernement, en faisant donc non pas un observatoire qui avait un statut un peu flou, c'est-à-dire placé sous l'autorité politique, mais en fait faisant ce qu'il veut. Et d'ailleurs, Manuel Valls, quand il était à la Matignon, était tout à fait en désaccord avec Jean-Louis Bianco et sa vision de la laïcité. Mais c'était sa tutelle et il ne pouvait pas le démettre parce que Bianco était protégé par François Hollande et que pour des raisons politiques, le Premier ministre était en désaccord avec l'administration, mais l'observatoire qui était placé sous sa tutelle.
Ouais.
Bon, après, là, il y a une clarification du coup. On n'en fait plus un observatoire chargé de conseiller, de rendre des rapports et d'apporter une vision, mais une administration, tout simplement, c'est-à-dire un comité qui va réunir, je crois, une vingtaine de ministères, c'est pas rien, et qui va être chargé de dérouler 17 mesures à ce qu'on nous a annoncé sur la laïcité. Après, les actes, on verra. L'objectif est d'accompagner la mise en œuvre du projet de loi séparatiste qui devrait être voté définitivement dans les prochaines semaines.
Exact.
Est-ce qu'il suffira d'invoquer la laïcité dans les ministères, dans les administrations pour accompagner ce projet de loi ? Est-ce que ça fait vraiment une politique publique ? Est-ce que ce sera vraiment suivi de mise en œuvre quand on pense par exemple à la formation des fonctionnaires ? Et je rappelle, pour prendre un seul exemple, que le projet de loi sur les séparatistes, il étend le principe de laïcité non seulement aux administrations, mais à tous ceux qui seront délégataires d'un service public. Donc une entreprise privée qui se charge d'une mission de service public devra appliquer le principe de laïcité. Pour être clair, en clair, ça veut dire ne pas porter le voile pour ses agents, par exemple. Mais c'est évidemment l'exemple auquel on pense le plus souvent.
Et
on verra si ces actes sont mis en œuvre.
Et les regards se tournent bien sûr en particulier vers l'éducation nationale, marquée par l'attentat islamiste à l'encontre du professeur Paty. Sondage réalisé il y a quelques semaines par l'IFOP qui montrait un vrai clivage générationnel entre les nouveaux profs, les anciens profs sur la question laïque. Est-ce qu'il y a finalement, Stéphane Vernet, un gros manque de formation sur la question ?
Ah bah, manifestement, quand parmi la vingtaine de mesures, ou 17 ou 20, qui sont mises sur la table, on vous dit qu'il y aura une journée de la laïcité et qu'une des mesures phares parmi celles qui sont présentées et la formation des agents du service public aux questions de laïcité, ça montre bien qu'on a un problème, et pas que dans l'éducation nationale. En fait, il faut être clair, la laïcité, c'est une valeur fondamentale de notre République. D'un point de vue juridique, elle est très simple et très claire, elle date de 1905. Ouais. Dans les têtes, culturellement, ce n'est pas passé du tout. Et je pense que le problème, c'est aussi parce que cette notion-là n'est pas du tout enseignée à l'école, ou très mal. Le résultat, la résultante de ça, c'est que personne ne sait ce que c'est que la laïcité et comment ça fonctionne.
Mal enseigné ou mal compris.
Exactement. Chacun met un petit peu ce qu'il veut dedans.
Ouais.
Et à l'arrivée, vous êtes obligé de former les agences du service public. Vous avez une Marianne Chapa qui dit que ça correspond à un besoin. Il y a une très forte demande des agents qui veulent savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas faire au nom de la laïcité. Et on nous dit aussi que ce nouveau comité interministériel et toutes les mesures qui sont prises permettront d'éviter un drame en faisant référence à l'assassinat de Samuel Paty. Mmh. Mais je ne vois pas très bien en quoi un comité de liaison interministériel sur les questions de laïcité permettra d'éviter ce type d'attentat terroriste à l'avenir.
Ouais.
Et juste de terminer, je pense qu'on n'aurait pas besoin de ce genre d'outils et qu'on n'aurait pas ce type de débat si justement cette valeur fondamentale, encore une fois, de notre République était correctement enseignée à l'école depuis longtemps,
mais
c'est manifestement pas le cas.
On se souvient, au moment de l'affaire Paty, de professeurs qui se disaient complètement abandonnés, livrés à eux-mêmes sur ces questions de laïcité. Louis Osalter.
Oui, mais Stéphane a raison. C'est, en fait, il y a une perte de sens de ce terme, une perte d'enseignement, une perte d'explication, qui fait que maintenant, quand on parle de laïcité, en fait, on se retrouve pris en otage par deux visions hystériques de la laïcité.
Ouais.
L'une de ces visions explique que la laïcité est en fait une guerre aux musulmans, une guerre à l'islam, et qu'on utilise ce mot, qu'on instrumentalise ce mot dès qu'il s'agit d'islam pour stigmatiser et critiquer. Et à l'autre extrême, une autre vision consiste à brandir la laïcité dès lors qu'on parle de religion dans l'espace public, qu'on entend dire par exemple qu'il serait une mesure laïque d'interdire le port de signes religieux dans l'espace public, dans la rue. Pardon, ça n'a rien à voir avec la laïcité, hein, le fait de s'habiller dans la rue. C'est pas la même chose que s'habiller d'une certaine manière en revendiquant une conviction religieuse dans un lieu public. Donc on est vraiment pris en otage entre ces deux visions extrémisées, deux visions hystériques, par manque de sens, par manque d'explication, comme le soulignait Stéphane. On ne sait plus ce que c'est en fait que un principe essentiel d'organisation des pouvoirs publics, un principe de séparation des églises et des États, mais aussi le principe qui permet en fait de créer les conditions d'un débat public apaisé, parce que chacun ne va pas amener sa croyance, amener sa conviction religieuse dans un débat. Et au fond, c'est une des conditions de préservation de la paix civile. C'est pour ça que ça a été fait, la loi de 1905.
Allez, on continue à en parler, bien sûr, dans un instant, avec vous également au standard 39-21. On va rejoindre Patrice qui nous a contactés. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et c'est le débat des grandes voix avec Louis Alter, journaliste politique à Marianne, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest-France à Paris, mais également avec vous au 39-21. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
On parle de ce comité interministériel sur la laïcité lancé aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex. Patrice, votre opinion ?
Alors justement, j'espère que ce comité va redéfinir un peu le terme de laïcité. On va vraiment revenir aux fondamentaux, parce que la laïcité, c'est devenu pendant un moment un sacré fourre-tout. Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Oui, voilà, c'est devenu la laïcité, c'est devenu un sacré fourre-tout. En fait, ouais. Au départ, on avait défini la laïcité en disant, être laïque, c'est être anticlergé. Mmh. Et puis on a dit, au nom de la laïcité, je vais accepter ta différence. Non, c'est pas ça la laïcité, c'est pas accepter ta différence. La laïcité, justement, c'est qu'il n'y ait pas de différence. C'est tout, et notamment dans la fonction publique, je pense que ce comité va avoir du travail sur la planche, parce qu'il y a du pain sur la planche pour ce comité-là, parce que la fonction publique doit donner l'exemple, que ce soit la fonction publique d'État, les personnes chargées d'une mission de service public, les personnes chargées de l'autorité publique, mais aussi la fonction publique hospitalière et l'enseignement. On sent bien qu'il y a eu un abandon, chacun a eu sa propre définition de la laïcité, et puis finalement, c'est un petit peu perdu. La laïcité, c'est quoi ? Alors, est-ce que je peux porter mes signes religieux, ou est-ce que toi, tu... Voilà, c'est n'importe quoi.
Et vous dites que la question de la laïcité est épineuse ?
Ah oui, tout à fait, parce que depuis 30-40 ans, on tourne autour du pot, mais on n'a jamais redéfini vraiment ce que c'était la laïcité. Chacun a dit, oui, moi j'ai une définition, ce sera la mienne, puis moi, ce sera la mienne aussi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Merci. L'État doit donner l'exemple et dire voilà, la laïcité, c'est comme ça et point barre.
Merci beaucoup Patrice de Lyon, merci infiniment de nous avoir contactés au 39-21. Louis Alter, j'ai le sentiment, on a tous grandi, enfin certains dans des écoles de la République, où les menus à la cantine, où les différences qu'il y avait avec les petits camarades, on s'en foutait royalement.
Bien sûr, et en fait c'était ça l'application réelle de la laïcité.
C'est ça.
C'est-à-dire c'est la création d'un espace, que ce soit à l'école, mais surtout à l'école, parce que c'est là qu'on se construit en tant que citoyen, en tant que personne, c'est la création d'un espace dans lequel la croyance n'intervient pas. Et c'est la seule condition dans laquelle on peut avoir un débat public raisonnable et puis surtout former des consciences. Alors que les élèves dans leur famille, dans leur vie de tous les jours pratiquent une religion et même le revendiquent, en parlent, ça ne pose évidemment aucun problème parce que c'est l'État qui est laïque et pas la société, comme on le dit souvent. Mais en revanche, quand on est à l'école, de manière à assurer à la fois la paix civile mais aussi la discussion paisible et raisonnée, il est nécessaire de se départir des appartenances religieuses. Pas pour combattre les religions, pour combattre tout type de croyances, mais pour que chacun les remette à leur juste place au moment où on va avoir une conversation entre gens justement d'origine et de religions différentes ou avec des sans-religions, des athées.
Pourquoi ce débat est apparu finalement il y a relativement récemment ? C'est-à-dire qui instrumentalise finalement cette notion de laïcité ?
Alors le débat, il est apparu à mon... Il faut se rappeler de la violence du débat en 1905, hein, quand,
dans un
quand les républicains font la guerre à l'Église catholique, qui leur rend bien d'ailleurs.
Mais le contexte historique est particulier.
Évidemment, quand il y a une expulsion des congrégations, il y avait quand même un climat de guerre civile en France, quand la laïcité a commencé à être inscrite dans les textes républicains. Et là, c'est évidemment l'émergence de l'islam en France, une religion qu'on connaît mal, qu'on a du mal à appréhender, dont on se demande quelles sont les multiples formes, dont on a pu constater que certaines formes pouvaient être violentes. Et évidemment, depuis les attentats, que ce débat a pris des proportions
parce qu'on se demande comment l'outil laïcité peut appréhender l'émergence grandissante d'une religion nouvelle en France, ou en tout cas récente. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à l'appréhender, en partie parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la laïcité, en fait.
Stéphane Vernet, l'exécutif doit acter la création de la journée nationale de laïcité fixée au 9 décembre, jour anniversaire de la loi 1905. C'est utile ou c'est complètement un gadget totalement inutile ?
Non, c'est formidable, ça va tout changer. Je crois que ça va régler le problème.
Enfin, d'accord.
Voilà, c'est complètement.
C'est que du symbole.
Non, mais ça n'a pas de sens. Mais si vous voulez, enfin, moi, je pense qu'il faut. Je trouvais intéressant ce que disait l'auditeur juste avant, et il a raison. C'est devenu un concept fourre-tout dans lequel chacun met ce qu'il veut.
Exactement.
Mais le principe de laïcité en 1905, il est, pour le dire simplement, on pose le principe de la neutralité absolue de l'État. L'État n'est pas pour une religion ou une autre, l'État se met en dehors de la religion. Et cette démarche-là permet aussi de garantir la liberté de culte. C'est une assurance, c'est une garantie pour qu'il n'y ait pas de persécution d'une religion au lieu d'une autre. Et Louis Salter avait tout à fait raison tout à l'heure, quand il disait qu'on a eu le développement de deux visions complètement hystérisées de la laïcité, dont une qui était très laïcarde, mais c'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, on a utilisé le principe de laïcité pour bouffer du curé, excusez-moi, hein, je prends l'expression. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que vous avez en fait la chrétienté, le catholicisme, a intégré complètement cette dimension et est en recul. Aujourd'hui, la religion dominante en France, c'est l'athéisme. Il y a la problématique de l'émergence d'une nouvelle religion, en tout cas, enfin, qui n'est pas nouvelle, mais qui prend beaucoup d'espace dans l'espace public, qui est l'islam. Et vous avez une partie de cet islam qui est un islam politique, revendicatif, et qui, en fait, s'affiche, effectivement, et qui est prosélyte, et qui se manifeste dans l'espace public. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est comment on reste, nous, ancrés sur nos valeurs de base, sur la laïcité, sans transformer cet outil d'une nouvelle manière, qui devienne un outil qui consisterait à essayer de combattre l'islam politique, mais sans le dire. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette histoire. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, oui, l'État est totalement neutre, l'État n'a pas de religion, ça c'est essentiel, mais derrière, il faut qu'il y ait une liberté aussi totale, des gens qui veulent croire ou ne pas croire, de pouvoir le faire en toute liberté dans ce pays. Ouais. Sinon, on y perdra quelque chose. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de dire que c'est le gouvernement et c'est l'exécutif qui doit définir la doxa en la matière.
Lourde tâche donc pour ce comité interministériel sur la laïcité. Vous restez avec nous, dans un instant on change de sujet, on va revenir sur les manifestations d'hier contre le pass sanitaire. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h50, la suite de vos grandes voix ce soir avec Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction de Ouest France à Paris. On va revenir, messieurs, sur les manifestations contre le pass sanitaire hier. On a entendu le mot dictature notamment. Il y avait 19 000 personnes en tout sur l'ensemble de la France. C'est assez peu finalement, Stéphane Vernet.
Oui, alors parce que en fait, tout le monde fait le parallèle avec les Gilets jaunes. C'est la question qui se pose. Est-ce qu'on va assister à un revival du mouvement ? Est-ce qu'il va y avoir une contestation populaire et spontanée qui va faire boule de neige comme en 2018 ? Bon, moi, je comprends l'interrogation, je comprends la question, mais je pense que les deux mouvements sont très différents. Et si vous voulez, les Gilets jaunes, au départ, hein, vous avez quand même, c'est une partie de la France qui se sent
exclue, oubliée par les décisions prises par Paris.
Mise en difficulté par des décisions qui vont avoir des conséquences sociales très importantes. Et ce qui fait qu'au départ, le mouvement a créé beaucoup d'empathie. Je pense que c'est quelque chose qu'on pouvait comprendre et auquel on pouvait adhérer très largement, même quand vous ne manifestiez pas. Souvenez-vous, les études d'opinion, pendant de longs mois, l'écrasante majorité des Français soutenait le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, vous n'aviez pas tout le pays dans la rue.
Mais on
là, je pense
pas.
Que c'est très, très différent. Ouais. Parce que, excusez-moi, mais autour de ces questions-là, les gens qui descendent dans la rue sont des gens qui, à contrario, ne veulent pas s'inscrire dans un effort collectif de solidarité, qui, ouais. qui vous disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Alors, ils ont leur raison.
Mais il y a aussi cette opposition à une chose obligée par le président Macron. Derrière, il peut aussi y avoir toutes les réformes qui vont arriver, notamment celle de la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'on ne peut pas avoir finalement un rassemblement de gens qui s'opposent au pouvoir, aux décisions d'Emmanuel Macron?
Si, ça on peut, mais c'est autre chose. Moi, sur le pass sanitaire,
précisément.
Si vous voulez, je pense que Emmanuel Macron, lundi, il a fait les gros yeux. À tous les sens du terme. Au propre comme au figuré. Il reprenait l'intervention, il avait les yeux, il faisait les gros yeux. Voilà. Et il nous annonce des choses énormes, non pas sur la vaccination, mais sur le pass sanitaire. Il crée des conditions qui sont telles que, de toute façon, si vous ne faites pas vacciner, les choses deviennent infernales et dans des délais qui sont tellement raccourcis que c'est absolument inapplicable dans plein de champs, pour plein de choses. Parce que dans ce pays, les enfants de plus de 12 ans ne sont pas vaccinés. S'ils ne peuvent plus accéder aux lieux de loisirs... À partir du 21 juillet, il n'y a plus de centre aéré. Enfin, ouais. c'est voilà, vous avez tous les saisonniers, tous les gamins de 20-25 ans dont on a absolument besoin dans les bars et les restos. Ils ne sont pas vaccinés non plus dans les tentes. Enfin, plein de choses qui sont absolument inapplicables. Mais je pense qu'il sait très bien que ce n'est pas applicable. Depuis les annonces, on a plein de mesures d'assouplissement, etc. Exact. Mais le but du jeu, c'était de créer un électrochoc.
Ouais.
Et ça, c'est réussi, parce que en 24 heures, vous avez plus de 2 millions de Français qui se ruent sur les créneaux de vaccination. Donc ça marche.
Ouais.
Le but du jeu pour lui, c'était que les indécis ou plein de gens se vaccinent très vite et qu'on rattrape le retard qui s'était accumulé ces derniers temps.
Louis Osalter, pour terminer, selon l'avant-projet de loi, les sanctions seront très fermes en cas de non-respect des mesures. Ça peut créer, c'est ça aussi qui crée cette colère.
Oui, et moi dans la colère...
Il y a des rassemblements prévus ce week-end.
Oui, mais alors moi, je distinguerais en fait ceux qui vont se mobiliser ou qui se rassemblent, qui à mon avis sont les plus radicaux et qui sont une part très minoritaire, et qui pour les anti-vaccins, enfin, c'est quelque chose qui relève plus de la croyance que de la rationalité en réalité. Donc à la limite, c'est des gens qui ne seront jamais convaincus, mais ça reste une part marginale. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus ces gens qui ne manifestent pas, ils ne manifesteront jamais, parce que ce n'est pas leur état d'esprit, mais leur état d'esprit est de dire à la fois ils sont prudents vis-à-vis de la vaccination et en même temps plusieurs millions d'entre eux se sont depuis le coup de pression du président inscrit à la vaccination, et au demeurant, je pense que l'opinion sera de plus en plus choquée à mesure qu'elle découvre les mesures du projet de loi dont on parle sur le pass sanitaire. Là, j'ai ici sous les yeux, quand on explique qu'il peut être un motif de licenciement de ne pas se faire tester tous les deux jours ou de ne pas se faire vacciner quand on travaille dans l'un des établissements concernés, nouveau motif de licenciement. C'est-à-dire qu'on touche au code du travail quand même pour cette raison-là. Quand on explique que les tenanciers de ces établissements sont passibles d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'ils ne contrôlent pas les papiers, c'est-à-dire s'ils ne se font pas auxiliaires de police, pardon de poser les termes dans le débat dans ces termes-là, mais je pense qu'il peut y avoir un électrochoc dans l'opinion publique, il a commencé à s'amorcer. Après, je pense comme Stéphane que c'était un coup de pression, que le gouvernement lâche du lest depuis. Il ne m'étonnerait pas qu'il lâche également du lait sur certaines de ces mesures d'ici quelques jours.
Merci Louis Osalter de Marianne et Stéphane Vernet de Ouest-France. Merci à vous messieurs.